Quand on perd un être cher, un membre de sa famille ou un ami, la douleur peut être très vive et durer longtemps. Le prophète Jérémie et le roi pieux Josias étaient des compagnons d'armes, pour ainsi dire, parce qu'ils avaient lutté ensemble contre l'idolâtrie du royaume de Juda. Mais le roi perdit la vie dans une bataille stupide et Jérémie, bouleversé, composa une complainte funèbre pour ses funérailles. Josias fut suivi par trois de ses fils et un petit-fils. Tous les quatre furent idolâtres. Jérémie prophétise pendant leur règne et il n'a pas froid aux yeux. Il est comme un jeune lion qui ne fait pas dans la dentelle. Pourtant, personnellement, il a un grand cœur qui est brisé parce qu'il annonce que son peuple va être sévèrement châtié par l'Éternel. Je commence à lire le chapitre 20. Le prêtre Pashur, fils d'Immer, qui était le responsable en chef du temple de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser de cette manière. Alors, il fit battre le prophète, puis le fit attacher au pilori à côté de la porte supérieure de Benjamin, qui donne accès au temple de l'Éternel. Versets 1 et 2. Pashur était le chef de la police du temple, chargé de veiller au maintien de l'ordre à l'intérieur du sanctuaire. C'est la première fois que Jérémie subit des sévices corporels en raison de son obéissance à l'Éternel, et c'est un religieux qui le persécute, comme quoi l'Inquisition n'a rien inventé. Ce Pashur n'avait aucun problème avec les cultes idolâtres, on pouvait bien brûler vifs les petits-enfants, ça lui était tout à fait égal. Mais le ministère de Jérémie était inacceptable parce que fidèle à la parole de Dieu. Le prophète se retrouve attaché près de l'entrée nord du parvis, la cour extérieure au temple. Je continue. Le lendemain, Pashur détacha Jérémie du pilori. Celui-ci lui dit, « Ce n'est plus Pashur que l'Éternel t'appelle, mais de toutes parts, c'est la terreur. Voici en effet ce que déclare l'Éternel. Je vais t'abandonner à la terreur ainsi que tous tes amis. Ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis. » Et tu en seras témoin. Je livrerai aussi tout le peuple de Juda au roi de Babylone qui les déportera à Babylone et les fera périr par l'épée. Quant à toi, Pashur, ainsi que tous ceux qui habitent chez toi, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone et c'est là que tu mourras, que tu seras enterré ainsi que tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Versets 3 et 4 et 6. Pashur signifie de toutes parts c'est là. Sécurité. Jérémie lui donne un nouveau nom. De toutes parts, c'est la terreur. C'est de très mauvais augure et annonce le sort funeste qui attend ce sale bougre aux mains des Babyloniens. Ces derniers sont nommés ici pour la première fois. Cette mention joue le rôle d'un décret divin scellé dans le béton. Leur invasion est tellement certaine que c'est comme si elle s'était déjà produite. Quant à Pashur, il fut déporté en même temps que le roi Jéhoiakim suite au second siège de Jérusalem par Nabuchodonosor. En effet, peu de temps après cette invasion, on apprend que son poste est occupé par Sophonie. Lors du second siège de la ville, sous le règne de Sédécias, Jérusalem fut entièrement détruite. Je continue. « Tu m'as séduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire. » Tu t'es servi de la force avec moi et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis un objet de risée. Tous se moquent de moi. Chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut. J'annonce la violence et la dévastation. À longueur de journée, ta parole éternelle m'attire des outrages et des insultes. Versets 7 et 8. La persécution dont Jérémie vient de faire l'objet provoque en lui une nouvelle tempête intérieure et une nouvelle confession. Le pauvre homme est au plus bas. Il se plaint que Dieu l'a forcé à devenir prophète sans l'avertir des souffrances qu'il aurait à endurer. Non seulement on l'insulte, mais on se moque aussi de lui parce que ses prophéties ne s'accomplissent pas. Je continue. Et lorsque je me dis « Je veux oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. » Verset 9. Jérémie est prêt à jeter l'éponge et abandonner un ministère qui lui brise le cœur et lui attire la foudre de ses contemporains. Mais ça lui est impossible, car la parole de l'Éternel l'habite et elle est comme un feu intérieur qui le consume jusqu'à ce qu'il cède à la pression et prophétise. Voilà bien une véritable inspiration sacrée. L'apôtre Paul aussi se sentait obligé de prêcher. Il écrit « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Je continue plus loin en compressant. « Mais l'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont trébucher et ils ne l'emporteront pas. Ils seront tout honteux car ils ne réussiront pas. Leur honte sera éternelle, on ne l'oubliera pas. Chantez à l'Éternel, oui, louez l'Éternel, car il sauve le pauvre de la main des méchants. Maudit soit à jamais le jour où je suis né. Que ce jour où ma mère m'a fait naître en ce monde ne soit jamais béni. Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon père en disant « Il t'est né un garçon » et qui lui a causé une très grande joie. À quoi bon être sorti de son sein si c'est pour faire l'expérience de la souffrance, de la détresse, pour consumer ma vie dans le mépris. Versets 11 à 18. Après avoir dit sa souffrance, Jérémie se ressaisit, exprime sa confiance en l'Éternel, lui rend gloire, puis plonge à nouveau. Ses sentiments font du yo-yo et lui jouent des tours. Un tel découragement se retrouve chez plusieurs hommes de Dieu de l'Ancien Testament comme Job, Élie ou Jonas qui voulurent eux aussi mourir plutôt que de continuer leur ministère. Le chapitre 21 raconte un incident qui s'est passé alors que Jérusalem est assiégée par les Babyloniens. Sédécias, troisième fils de Josias et dernier roi de Juda, est sur le trône, mais plus pour longtemps. Je commence à lire. « Voilà ce que l'Éternel dit à Jérémie quand le roi Sédécias envoya vers lui Pachour, fils de Malkia, et le prêtre Sophonie, fils de Maaseia, pour lui dire... » Verset 1. « Pachour était un nom courant et ne doit pas être confondu avec le Pachour précédent qui lui était fils d'Immer. » Si on n'est pas rigoureux dans l'interprétation des Écritures, on peut facilement tout mélanger. Sédécias est un roi faible et idolâtre, mais maintenant qu'il a de graves ennuis, il se tourne non pas vers les faux prophètes, mais vers Jérémie. Je continue. « Veuille consulter l'Éternel pour nous, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous attaque. Peut-être l'Éternel fera-t-il encore pour nous un de ses grands prodiges pour le faire partir. » Verset 2. L'empire babylonien s'étendait du golfe Persique jusqu'à la partie orientale de la Méditerranée. C'est ici la première mention de Nabuchodonosor. Sédécias s'est attaqué parce qu'il était vassal de Babylone et s'était révolté. Il s'imagine que Dieu fera un prodige comme lors du siège de Jérusalem par les Assyriens. Seulement à cette époque, la situation était très différente car le roi Ézéchias, qui régnait, était bon et pieux, contrairement à celui-là. Je continue en compressant. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi-même, je combattrai contre vous en déployant ma puissance avec colère, avec fureur et une grande indignation. Je frapperai tout ce qui habite dans cette ville, les hommes aussi bien que les bêtes, d'une terrible épidémie dont ils mourront. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses fonctionnaires et la population de cette ville qui aura survécu à la peste, à l'épée et à la famine, à Nabuchodonosor, roi de Babylone, à leurs ennemis et à ceux qui en veulent à leur vie. Nabuchodonosor les fera massacrer par l'épée, il ne les épargnera pas, il sera sans pitié pour eux et n'aura aucune compassion. Verset 3-7. Alors que d'habitude, l'Éternel combat pour son peuple, cette fois-ci ce sera contre lui en raison de sa rébellion envers l'Éternel. Les fils de Sédécias furent égorgés devant leur père et lui-même eut les yeux crevés. Je continue. Puis tu diras à ce peuple, voici ce que déclare l'Éternel, Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve. Il aura au moins gagné cela. Versets 8 et 9. À cause de ce conseil que Jérémie répéta au roi et au peuple, il fut accusé de trahison car il démoralisait les troupes. En réalité, il fallait beaucoup de courage et de foi en Dieu pour conseiller aux Israélites de se rendre. Ce choix entre la vie et la mort que Jérémie donna au peuple est toujours d'actualité. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ et en lui seul reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Mais tous les autres seront perdus. Je continue plus loin. Écoutez la parole de l'Éternel, dynastie de David. Voici ce que déclare l'Éternel. Rendez donc la justice dès le matin, délivrez l'opprimé de l'oppresseur, car sinon ma colère éclatera tout comme un feu, et elle brûlera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de vos actes qui sont mauvais. Verset 12. À partir d'ici, Jérémie s'adresse spécifiquement au pouvoir royal dont le rôle était d'exercer la justice et de protéger les plus démunis. Or, dans la ville assiégée, l'oppression des petits par les grands n'avait fait qu'augmenter. Comme précédemment, lors de l'observation du sabbat, l'obéissance sincère à un seul précepte de la loi aurait été le signal d'une conversion qui aurait retardé la ruine de la nation. Cette exhortation à faire régner la justice était donc la réponse de l'Éternel à la demande d'un miracle par le roi Sédécias. Je finis le chapitre 21. « Je vais m'en prendre à toi, palais du roi, l'Éternel le déclare, toi qui t'es installé au rocher du plateau qui domine la plaine, j'en veux à vous qui dites, qui nous attaquera? Qui pourra pénétrer jusque dans nos bastions ?» Moi, j'interviendrai contre vous selon ce qu'ont produit vos actes, l'Éternel le déclare. J'allumerai un feu dans ta forêt et il consumera tout ce qui est autour de toi. Versets 13 et 14. La forêt est une référence à la maison du roi qui était située sur une colline en contrebas du temple. Elle était appelée Palais de la forêt du Liban en raison de ses colonnades en bois de cèdre du Liban. Comme je l'ai déjà dit, les oracles de Jérémie ne sont pas dans un ordre chronologique. Dans le prochain chapitre, le peuple est encore sous le choc de la mort du bon roi juste Josias. Son fils, Joachaz, qui lui a succédé, n'a duré que 3 mois avant d'être exilé en Égypte. Puis le pharaon place son frère aîné, Jéhoiakim, sur le trône. Cependant, ce dernier est méchant comme une teigne, cruel et injuste, car il permet aux riches de s'enrichir sur le dos des pauvres. Je commence à lire le chapitre 22 en compressant. L'Éternel me dit, « Rends-toi au palais du roi de Juda, et là tu prononceras ces paroles. Voici ce que dit l'Éternel. Exercez le droit et la justice, délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, ne commettez pas de violence envers eux, ne tuez pas des innocents dans ce lieu. Car si vous agissez vraiment selon ce que je vous dis, alors continueront à passer par les portes de ce palais des rois montés sur des chars et des chevaux, avec leurs fonctionnaires et leurs sujets, des rois siégeant sur le trône de David. Mais si vous ne tenez pas compte de ces paroles, je le jure par moi-même, l'Éternel le déclare, ce palais ne sera plus que ruine. Je vais faire appel contre toi à des démolisseurs armés de leurs outils. Ils abattront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. » Versets 1 à 7. Dans ce premier oracle, Jérémie s'adresse à Jéhoiakim et à ses grands. Il commence par une belle promesse. Bien qu'il soit déjà à la 11e heure, s'il respecte les droits les plus élémentaires des pauvres, l'exil sera repoussé. Mais s'il refuse d'obéir, le palais et les maisons des officiels construits en cèdre du Liban seront détruits. Je continue plus loin. Ne pleurez pas sur le roi qui est mort, ne vous lamentez pas sur lui, pleurez, Pleurez plutôt sur celui qui s'en va, parce qu'il ne reviendra pas. Il ne reverra plus la terre où il est né. Celui qui s'en va est Joachaz, aussi appelé Shalum, quatrième fils de Josias, qui fut exilé en Égypte où il mourut. Quant au roi Josias, il fut tué au combat à Megiddo. Cette mort prématurée l'a préservé des malheurs qui vont s'abattre sur son royaume. Les expressions du texte donnent l'impression que ce malheur est récent, car il s'en dégage une profonde émotion. Je continue plus loin en compressant. Malheur à l'homme qui bâtit sa maison par l'injustice et qui ajoute des pièces à l'étage en violant l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner ce que vaut son travail. Penses-tu affermir ton règne en essayant de surpasser les autres par les palais de cèdre? Souviens-toi de ton père, il a exercé le droit et la justice et s'en est bien trouvé. Il faisait droit aux pauvres ainsi qu'aux malheureux et s'en est bien trouvé. C'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît, l'Éternel le déclare. Mais toi, tu n'as Dieu de pensée que pour t'assurer des profits et pour tuer des innocents, pour opprimer et pour traiter les gens avec brutalité. Versets 13 à 17. Malheur à l'homme qui fait travailler son prochain pour rien est tout à fait conforme à l'esprit de la loi de Moïse. Le roi Josias était juste parce qu'il n'exploitait pas les faibles mais les protégeait. Dans l'ancien Orient despotique, les gens n'étaient que des esclaves ou au mieux les sujets de la classe dirigeante. Le roi Jéhoiakim se comportait comme un monarque païen, une vraie peau de vache. Non seulement il rançonnait ses sujets pour payer le tribut que le pharaon Necho lui avait imposé, mais il insultait la misère publique en obligeant les pauvres à construire des demeures fastueuses sans les rémunérer, ce que la loi interdisait. Ses conseillers faisaient certainement pareil. Ils profitaient de leur statut pour exploiter le petit peuple. Dans les Écritures, les riches sont souvent l'objet de la condamnation de Dieu parce que, d'une part, leurs biens sont fréquemment mal acquis, et d'autre part, ils utilisent le pouvoir de l'argent pour leur profit personnel. Je lis un passage du Nouveau Testament. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés, cette corrosion témoignera contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu, vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. » Fin de citation. Dieu tient ses comptes à jour et marque comment chacun d'entre nous se comporte vis-à-vis de l'argent. Il est surtout intéressé par ce que nous dépensons pour satisfaire notre ego. En 2006, l'homme le plus riche de la planète était Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Il donne des tas de millions à des bonnes causes, mais au vu de son immense fortune, ce ne sont que des miettes. Plusieurs milliards d'individus doivent survivre avec moins d'un euro par jour et certains richissimes laissent des millions à leurs chats, chiens ou canaris. C'est scandaleux! Je ne voudrais pas être dans leurs souliers quand ils comparaîtront devant le Créateur. Les inégalités criardes des sociétés humaines demandent, exigent à ce que un jour Dieu juge le monde. Je continue le texte en compressant. Voilà pourquoi l'Éternel déclare au sujet de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Personne ne le pleurera en disant « Hélas, mon Seigneur, hélas, sa Majesté, il sera enterré comme on enterre un âne, on traînera son corps et on le jettera à l'extérieur des portes de Jérusalem. » Versets 18 et 19. Jéhoiakim fut enchaîné et emmené à Babylone. Il est sans doute mort en route et fut enterré dans le désert, sans tambour ni trompette, comme un vulgaire animal. Je continue en compressant. « Monte au Liban, écris, parce que tes amants sont tous brisés. Je t'avais averti au temps de ta prospérité, mais tu as déclaré, je n'écouterai pas. Le vent emportera tes dirigeants et tes amants s'en iront en exil. Toi qui habites le Liban, qui as placé ton nid au sein des cèdres, comme tu vas gémir lorsque tu seras prise de douleur. » versets 20 à 23. Jérusalem habite le Liban dans le sens que ses jardins et palais luxueux sont remplis et entourés de cèdres du Liban. Jérusalem personnifiée sous les traits d'une femme en détresse va au Liban dans le nord de la Palestine pour constater que tous ses alliés ont été vaincus par les Babyloniens comme les derniers rois de Juda. Je continue le texte. « Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, même si Konia ou fils de Jehoiakim, roi de Juda, était comme l'anneau à ma main droite qui sert de sceau, je l'en arracherai. » Verset 24. Koniaou est le roi Jehoiakim, fils de Jehoiakim. Avant de monter sur le trône, il s'appelait Yekonia, mais Jérémie enlève le préfixe « Yé » qui signifie « Dieu », sans doute parce qu'il était encore pire que son père. Cependant, d'après un texte du Livre des Rois, il est possible qu'à la fin de sa vie, il se soit repenti. Je continue plus loin et finis le chapitre 22. « Voici ce que déclare l'Éternel. Inscrivez que cet homme sera privé d'enfant pendant toute sa vie et il ne réussira rien parmi ses descendants. Aucun n'accédera au trône de David pour régner sur Juda. » Verset 30. « Jehoiakim aura au moins 7 enfants, mais aucun d'eux ne régnera sur le trône de David. Sédécias, qui lui succéda, était son oncle. » La lignée des successeurs de David par Salomon se termine avec Jehoiakim que l'Éternel a maudit. Or, Joseph, l'époux de la Vierge Marie, descendait de cet homme. Mais comme il n'était pas le père biologique de Jésus, ça n'a pas d'importance. Marie, par contre, avait pour ancêtre Zorobabel, qui sera gouverneur de Juda après l'exil, lui-même étant un descendant de David par Nathan, frère de Salomon. Tout cela pour dire que Jésus-Christ, le fils de Marie, a le droit légal de régner sur Israël car il est descendant de David par Nathan et il est aussi l'accomplissement de la promesse de l'Éternel au roi David. Ce que je viens d'expliquer montre combien il est important d'étudier les Écritures avec soin et rigueur.